Madrid, Moscou.
Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Des actes, l'alignement des actes.
À ta place, en façon, des burgatums.
Time will tell.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. Gone, baby, gone. Il était vu comme l'homme providentiel, le cost killer virtuose, le forgeron quasi omnipotent de la première alliance automobile du monde. Le voilà derrière les barreaux. On a pu dire, vous savez, de Carlos Ghosn que son amour de l'argent n'égalait que sa réticence à faire savoir combien il en avait. Et cela fait donc 3 mois au moment où nous enregistrons cette émission que le PDG déchu de Renault-Nissan est incarcéré au Japon. La justice nippone lui reproche plusieurs dizaines de millions d'euros de fraude fiscale et de malversations. Ça, vous le savez, mais alors au-delà de cette affaire juridique et médiatique que vous connaissez, que dire de son aspect industriel et stratégique, voire culturel, dans un pays particulièrement intransigeant avec ce que l'on appelle la délinquance en col blanc. Russe Europe Express, c'est parti. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
Et en face de vous, Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Économiste, professeur associé à Subdeco Paris. Il se trouve que vous avez passé quelques années avec notre ami Carlos Ghosn sur les bancs de Polytechnique quand vous étiez étudiant. Même si, c'est plutôt en tant que fin connaisseur du monde des grandes entreprises qu'on a voulu vous inviter aujourd'hui. Jacques Sapir, votre édito, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette affaire, selon l'expression consacrée, elle défraie la chronique.
Oui, absolument. Et elle défrise même un certain nombre de chroniques. Alors, oui, depuis l'arrestation et l'incarcération de Carlos Ghosn au Japon, les commentaires vont bon train. Alors, les uns de saluer un grand capitaine d'industrie qui serait accusé, si ce n'est à tort, du moins dans des conditions très douteuses. Et les autres de se demander doctement si cette affaire ne cache pas un complot japonais. Et oui, l'image de l'asiatique fourbe, du docteur Fu Manchu, rôde encore dans certains esprits. On voit qu'il y a là, évidemment, un problème, parce que on comprend que cette affaire Ghosn a quand même permis à Nissan de se libérer, en fait, de la tutelle d'une entreprise étrangère, Renault, pour ne pas la nommer. Les conditions d'incarcération de M. Ghosn font aussi soupirer. Et oui, on découvre que la loi à l'étranger peut être plus sévère pour ce que l'on appelle le crime en col blanc que dans notre bonne France.
Mais alors, derrière ces commentaires en tout genre, il y a bien une réalité économique, Jacques Sapir.
Évidemment. À travers l'arrestation de Carlos Ghosn et son éviction de la direction de Nissan, se joue le sort d'une entreprise française qui s'était internationalisée. L'alliance entre Renault et Nissan est industriellement importante en cela qu'elle avait doté l'entreprise française d'une véritable taille mondiale. On a beaucoup glosé sur cette alliance, mais il est vrai qu'elle a permis de mettre sur pied des synergies industrielles et de doter le groupe ainsi constitué d'une échelle véritablement mondiale. Ce point est important, car sur les 93 millions de voitures produites en 2017, plus de 50% l'ont été dans la zone asiatique et 28% en Chine. L'alliance Renault-Nissan, avec ses quasiment 9 millions de véhicules, faisait partie des 3 premiers mondiaux. Or, dans la construction automobile, le coût de construction est, en un sens, inversement proportionnel au nombre d'unités produites. C'est dire que les enjeux industriels qu'il y avait dans ce rapprochement étaient importants. De même, la constitution d'un grand groupe de taille mondiale permet aussi de développer la recherche, que ce soit sur la voiture électrique ou hybride, ou sur les fameuses aides électroniques à la conduite.
Pour autant, une théorie se fait entendre ça et là qui dit qu'il y aurait une volonté de la part des Japonais de s'éloigner de la marque aux losanges.
Oui, c'est vrai qu'on en entend dire ça, mais rien ne dit qu'il soit dans l'intérêt de Nissan de rompre cette alliance. Pour être crédible, une quelconque théorie du complot implique d'être étayée par des éléments objectifs. Cette alliance était en réalité bénéfique pour les deux constructeurs. Il convient aussi de rappeler que chacun des deux conservait son identité industrielle, mais aussi ses priorités. Et l'on pense ici au développement de Renault en Russie et enfin son positionnement. La question de Carlos Ghosn apparaît ainsi plus symbolique qu'industrielle. Il avait réussi, au début de l'alliance entre Renault et Nissan, à se faire accepter par les actionnaires japonais, mais aussi par les cadres de Nissan. Pourquoi est-il donc aujourd'hui rejeté? Et ce rejet est-il de forme ou de fond? Car si Nissan voit dans cette affaire judiciaire une occasion de regagner un petit peu d'indépendance, ce n'est pas Nissan qui a créé la situation qui a conduit à l'emprisonnement de Carlos Ghosn.
Bon, et dans tout ce contexte, quelle est votre lecture des ennuis qui traversent Carlos Ghosn ?
Eh bien, je pense que ça pose le problème, justement, du traitement médiatico-judiciaire de l'affaire Carlos Ghosn, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi. D'après ce que l'on peut savoir des accusations portées contre lui, ces accusations sont à la fois de nature fiscale et de nature de l'abus de biens sociaux. Il semble étrange qu'un homme, avec l'expérience de Carlos Ghosn, avec aussi sa puissance, ses moyens financiers, ne se soit pas mis en règle avec le fisc. Et que l'on ne parle pas ici de la complexité des lois japonaises à ce niveau, M. Carlos Ghosn pouvait voir évidemment tous les conseils dont il avait besoin justement pour se mettre en règle. Ce qui fait le lien avec le problème de l'abus de biens sociaux. Si ce dernier devait être avéré, il démontre un comportement chez un grand patron, parmi d'ailleurs les mieux payés de sa branche, qui confine ici à l'hubris. De fait, l'affaire Carlos Ghosn est à la fois révélatrice de notre complaisance pour le comportement des puissants, une complaisance qui n'est peut-être pas justement la même au Japon, et d'une ignorance des règles particulières justement à la société japonaise. Les commentaires faits à son sujet sont révélateurs. On reproche en un sens aux Japonais d'être des Japonais et d'avoir ainsi des règles différentes des nôtres. L'affaire Carlos Ghosn ne révèle-t-elle pas ce grand impensé des turiféraires de la mondialisation, l'existence et l'irréductibilité des spécificités nationales ?
Alors, je ne sais pas si Jean-Marc Daniel est un turiféraire de la mondialisation.
Tout de suite, je peux répondre oui.
C'est le terme de turiféraire. Peut-être d'abord, Jean-Marc Daniel, un mot de contexte, de ce contexte d'actualité dans lequel on se trouve. Et cette théorie, il faut le dire, un peu conspirationniste, comme l'a dit Jacques Sapir. Votre avis là-dessus, Carlos Ghosn lui-même s'est montré assez complotiste en affirmant que Nissan le trahit. Il sait chercher à l'abattre.
Oui, je crois que il faut pas voir la situation en blanc ou en noir. C'est-à-dire que il y a Nissan et puis il y a les hommes de Nissan. Et il faut voir que l'affaire intervient à un moment où l'industrie automobile va être obligée de se restructurer. Quelques semaines avant l'arrestation de Carlos Ghosn, il y avait eu une déclaration de Marie Barat, qui est la directrice générale de General Motors, annonçant qu'elle allait supprimer 14 000 emplois sur les 180 000 emplois de General Motors. Et non seulement elle annonçait ça, mais elle annonçait qu'elle allait supprimer 15% de la masse salariale. C'est-à-dire que les emplois qui sont impactés par la restructuration de General Motors sont des emplois qui sont plutôt en haut de la hiérarchie. Et Renault-Nissan, elle est obligée de faire la même chose. Et donc, dans les gens qui, en ce moment, sont les plus acharnés contre Carlos Ghosn, il y a aussi des gens qui pouvaient penser que si l'opération identique à celle qui est menée à General Motors se conduisait chez Renault-Nissan, ils allaient en faire les frais. Donc, je pense que l'intérêt de Nissan, c'est de rester dans l'alliance, mais qu'il y a un certain nombre de gens au sein de Nissan qui avaient intérêt et tu as intérêt à ce que Carlos Ghosn disparaisse. La deuxième remarque que je ferai, c'est que je trouve intéressant dans ce qui se passe, c'est le développement au niveau international, dans la mondialisation, de ce que j'appelle le protectionnisme judiciaire. C'est-à-dire que, simultanément, on a arrêté la numéro 2 de Huawei au Canada, qui est la directrice financière et qui est la fille du fondateur. Là aussi, dans des conditions qui sont des conditions assez étranges, elle était en zone internationale, la police canadienne, à mon avis, a peut-être outrepassé ses droits. Et tout ça pour, effectivement, de nouveau déstabiliser une société qui est une concurrente assez importante du marché de la téléphonie par rapport aux États-Unis. Si vous regardez aux États-Unis pour finir là-dessus, vous avez 26 amendes qui ont été mises sur des banques après la récession et la crise de 2008-2009 de plus de 100 millions. Et sur ces 26 banques qui ont été frappées, il n'y a que 5 américaines et 21 européennes. Donc on est en droit de se demander, est-ce qu'il y a véritablement un tel degré de corruption en Europe ou est-ce que la justice n'est pas instrumentalisée ? Et je pense qu'au Japon, on est un peu dans cette configuration. Il faut se souvenir que au moment de l'arrestation, il y avait la télévision japonaise qui était là, donc il y avait des gens qui avaient été prévenus.
Cet argument de on cherche à l'abattre, c'est quelque chose qui avait été aussi employé pour Dominique Strauss-Kahn, même si évidemment les faits reprochés n'ont strictement rien à voir. Et peut-être qu'il faut quand même que vous nous réexpliquiez quel serait l'intérêt pour Nissan de compromettre cette alliance qui a largement contribué à sauver cette entreprise.
Alors, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles Nissan peut réclamer d'abord un changement. D'abord, encore une fois, c'est ni tout blanc ni tout noir. Je pense que Nissan est en situation difficile par rapport à Renault. Quand on regarde les comptes consolidés de l'entreprise, c'est plutôt chez Nissan qu'il y a des problèmes en ce moment. Et donc, encore une fois, Carlos Ghosn s'apprêtait à porter le fer dans la plaie, et la plaie était essentiellement japonaise. Donc, il y a aussi une tentative des Japonais, à court terme, à mon avis, d'essayer de sauver leur situation personnelle, y compris, et essentiellement, d'ailleurs, je pense, pour un certain nombre d'individus. Le deuxième élément, c'est que on voit apparaître au Japon un questionnement, justement, sur ses rapports à la mondialisation. Et là, je rejoins ce que dit Jacques Sapir. dire. C'est-à-dire qu'on est quand même 150 ans après l'ère Meiji, ce qui a donné lieu au Japon à pas mal de débats sur est-ce qu'on a bien fait. Alors les Japonais disent on a bien fait de rompre avec notre isolement, avec la
situation... Cette autarcie qui a été celle du Japon à l'époque. Ouais, ouais.
Le Japon avant 1868, mais en se soumettant en fait à une pensée anglo-saxonne, d'abord anglaise, ensuite américaine, là, sous contrainte, hein. Est-ce qu'on n'a pas trahi une partie de notre tradition, de notre histoire, avec chez Carlos Ghosn une tentative au départ qui était d'essayer de s'insérer dans cette culture japonaise. Et d'ailleurs, il l'avait montré quand il était chez Michelin, puisqu'il est arrivé chez Renault après une longue carrière chez Michelin. Il avait montré que dans tous les endroits où il avait été, il avait essayé d'adopter les us et coutumes des endroits où il était en mission, où il était affecté par Michelin. Et donc, il était devenu un héros de manga. Au moment de l'affaire de Fukushima, il avait fait des actes de mécénat, il était intervenu personnellement, s'était rendu sur place. Et...
Personnalité publique, ouais,
Personnalité publique au Japon. Je crois que ce qui a surpris un peu les Japonais, c'est que il intervenait systématiquement à la télévision japonaise en japonais. Mmh. Donc on avait l'impression qu'il était totalement inséré dans le dispositif et qu'il parlait en particulier assez bien le japonais. Et là, face au procureur, on s'aperçoit qu'il y avait un peu un rôle de composition. C'est-à-dire que dans une vie quotidienne en japonais, il n'est pas capable de soutenir une vie quotidienne. Et donc quand il intervenait à la télévision, c'était abondamment préparé. Il y avait un jeu de rôle autour du Japon. Qu'il menait et qu'il conduisait.
On va effectivement y revenir un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Restons peut-être un instant sur cet aspect industriel de cette alliance internationale. Jacques Sapir, la presse japonaise a récemment affirmé que Paris exhortait Tokyo à envisager une fusion entre Renault et Nissan. Ça a été démenti par Bercy. Votre avis sur est-ce que cette affaire pourrait précipiter ou pas une dissolution de cette alliance ?
Je pense que ni Nissan ni Renault n'ont intérêt à dissoudre cette alliance. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, il y a dans les grandes sociétés de production d'automobiles, je ne parle pas des producteurs de niche, hein, des producteurs qui occupent une niche et qui n'ont pas réellement d'avenir au-delà de leur niche, mais sur les grands producteurs généralistes, il y a une course à la taille. Et pour toutes les raisons que j'ai dites d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, le coût d'une voiture est inversement proportionnel, évidemment à catégorie égale, est inversement proportionnel au nombre qui en est produit. Et donc, pour atteindre justement des nombres extrêmement importants, par exemple, je crois que la voiture la plus produite est une voiture japonaise et qui est produite aujourd'hui d'un modèle à plus d'1,5 million exemplaires, eh bien, il faut être très gros. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça ouvre, si vous voulez, cette alliance ouvre à chacun des partenaires des marchés qu'il connaît nettement moins bien. Ça a ouvert à Renault le marché asiatique, mais ça permet aussi à Nissan de rentrer sur le marché européen, voire sur les marchés africains, et surtout de rentrer sur le marché russe. Vous savez que c'est Renault qui tient Nissan par la main sur le marché russe, en réalité, parce que Renault a une très grande expérience maintenant du marché automobile russe. Donc, il y a des synergies à la fois d'ordre industriel, d'ordre commercial, et enfin, il y a des synergies d'ordre technique et technologique. Le centre de recherche de Renault bénéficie du centre de recherche de Nissan, et réciproquement. Même si, et j'insiste là-dessus, il y a une différence de culture entre les ingénieurs français et les ingénieurs japonais. Et là, pour avoir discuté avec des gens de Renault et de Nissan, je me rappelle d'une chose qu'ils me disaient qui est très, très frappante. Quand on demande de concevoir une pièce à un ingénieur français ou à un groupe d'ingénieurs français, la première chose qu'ils font, c'est de faire les équations de contraintes qui sont sur cette pièce. Par exemple, un piston, ils vont commencer à dire, voilà, il va tourner à telle vitesse. Bon, donc, on écrit les équations de contraintes. La première chose que fait un ingénieur japonais, c'est de dessiner la pièce. Et après, il commence à l'adapter aux contraintes. Et donc, on voit bien, il y a là une approche qui est assez substantiellement différente. Ceci dit, en dépit des différences de culture scientifique et du mode d'approche de l'objet, il y a eu des collaborations extrêmement fructueuses entre les deux entreprises. Et c'est pour ça que je ne crois pas à un divorce totale. Ce que je crois par contre, c'est qu'effectivement, Nissan veut récupérer une partie de son autonomie de décision.
Des collaborations fructueuses, mais ce système de participation croisée qui existe entre Renault et Nissan, il peut paraître un petit peu déséquilibré peut-être à certains. Renault possède 43% de parts chez Nissan, alors que inversement, Nissan ne possède que 15% de Renault. Et les Japonais n'ont quasiment pas voix au chapitre au conseil d'administration de Renault. Est-ce qu'il y aurait une rancune d'après vous?
Oui, je crois qu'il y a deux choses qui déterminent l'attitude des Japonais. La première, c'est qu'il y a Renault, Nissan, et puis il y a une Mitsubishi. C'est-à-dire que l'alliance, globalement, est plutôt en train de se déporter vers le pôle japonais. C'est-à-dire l'expansion du groupe se fait vers le pôle japonais, avec des petits sous-groupes. Hein, un des secteurs les plus dynamiques, c'est Dacia, qui est l'héritage historique de l'implantation de Renault en Roumanie. Et donc, les Japonais disent maintenant qu'il y a une sorte de choix historique fait par l'alliance pour se développer vers l'Asie et assez peu vers les États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, Fiat s'est associé avec Chrysler et donc a fait un choix assez typiquement américain. Et donc là, les Japonais disent la deuxième grande patrie de l'automobile, c'est le Japon. Renault a choisi le Japon. Il faut en tenir compte dans la façon dont on organise l'alliance. Et la deuxième chose, c'est les 20%, enfin, qui sont devenus maintenant 15% de l'État chez Renault. C'est-à-dire que les Japonais disent, on n'arrête pas de nous dire depuis 1945 qu'une économie normalement gérée est une économie dans laquelle c'est le secteur privé qui anime les activités industrielles. Et on a là...
Et vous ne sauriez être moins d'accord avec eux.
Et je partage ce point de vue et je les approuve. Et ils disent, on va pas nationaliser notre industrie automobile, mais on va être nationalisé par l'État français. Donc il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan intellectuel. On laisse
respirer. C'est 15% des parts, c'est le premier actionnaire, mais c'est avec 15% des parts.
Oui, absolument. Et d'autant plus que il y a eu... Alors, on pouvait considérer que c'était un actionnaire dormant, l'État français, que quelque chose faisait qu'il y avait une histoire et que cette histoire... Et puis Renault a été nationalisé, non pas dans une logique industrielle, mais dans une logique politique et punitive. On punissait la famille Renault et singulièrement Louis Renault.
Pour ce fait de collaboration.
Pour ce fait de collaboration. Dire, donc les Japonais, bon, en plus, ils veulent pas rentrer dans ce genre de considération et je les comprends. Mais que cet actionnaire qui avait vocation normalement à disparaître progressivement se remontre très actif, notamment dans les années 2015-2016, avec des affrontements quasi personnels entre le ministre de l'économie de l'époque qui était Emmanuel Macron et Carlos Ghosn. Les Japonais disent, écoutez, il y a quelque chose de malsain dans cette organisation, et je crois que si par exemple l'État français disait non, on se retire, le personnage qui va voir M. Ghosn, c'est le consul, parce qu'il est citoyen français, et c'est M. Ghosn, citoyen français, que le consul va voir pour y apporter son soutien dans une situation juridique délicate. Mais le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, ne s'en mêle pas, parce que c'est une entreprise privée. Je pense que ça apaiserait la relation et ça résoudrait une partie du problème.
Votre avis sur le fait que Bruno Le Maire ait autant tardé à désavouer Carlos Ghosn?
Je pense qu'il y a deux choses qui jouent dans tout ça. D'abord, l'histoire du complot. Je pense que beaucoup de gens sont persuadés que cette affaire n'arrive pas par hasard, pas de façon anodine. Alors on dit, il y avait à l'intérieur quelqu'un qui était en train de monter un dossier. On a même parlé des relations entre M. Ghosn et son ex-femme en disant que c'était elle qui avait été plus ou moins, pour des raisons de vengeance personnelle, à l'initiative dans l'affaire.
C'est bien romanesque.
Tout ça a été... Et donc, dans ce cumul d'informations, de présentations plus ou moins loufoques de la situation, je pense qu'effectivement, les dirigeants français se sont dit, on va essayer de regarder effectivement ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a été très maladroit vis-à-vis du Japon. À ce moment-là, je rappelle que le Japon était un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. C'était un allié solide de la Première Guerre mondiale. Et au moment du centenaire de la commémoration, personne n'en a parlé. Les autorités japonaises ont été assez meurtries de constater qu'on parlait des Américains, mais le rôle des Japonais dans la Première Guerre mondiale a été passé sous silence. Et donc, il y a eu une sorte de sentiment, je pense, au haut niveau, qu'on était peut-être en train de jouer avec le feu avec un pays qui est quand même une grande puissance industrielle, et qui, malgré les côtés un peu surprenants de son système judiciaire, est une démocratie. Et donc, qui est un allié assez naturel. Je rappelle qu'on vient de signer au niveau européen un traité de libre-échange avec le Japon. Et donc, il y a là un bloc économique Europe-Japon, qui est un bloc économique qui a vocation à être le concurrent et le rival du bloc Chine-États-Unis. En fait, il y a une logique à s'entendre avec le Japon. Et donc, je pense que nos dirigeants se sont dit, il faut regarder où on met les pieds avant de faire monter tout de suite en puissance une logique d'affrontement.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier. Jacques Zapien, votre avis sur le rôle de l'État, est-ce qu'il a notamment été assez suffisamment vigilant avec Carlos Ghosn?
Alors, l'État, en fait, enfin les représentants de l'État au sein de Renault regardent essentiellement les choix stratégiques de Renault, les choix de l'Alliance, et s'occupent très peu, malheureusement, on peut le regretter, de la question du comportement des dirigeants. Ça, il faut le dire, c'est quelque chose qui est bien connu. Je partage tout à fait avec Jean-Jacques Daniel le problème sur la relation avec le Japon. C'est vrai que le Japon est toujours extrêmement sensible à la manière dont il est perçu à l'étranger. Il y avait des gestes qui ne coûtaient absolument rien, mais qui auraient dû être faits, et comme tu l'as dit, c'est de rappeler que le Japon faisait partie de l'alliance victorieuse en 1918. D'ailleurs, la France avait acheté des navires de guerre au Japon. Il y a des navires de guerre japonais qui ont navigué sous pavillon français à cette époque-là. Bon, donc, il y avait quand même quelque chose à rappeler de ce point de vue. Et qu'il peut y avoir effectivement une forme de ressentiment par rapport à une puissance qui est en fait aujourd'hui une puissance de taille inférieure au Japon. Le Japon nous est nettement supérieur, que ce soit en termes de produit intérieur brut, même de développement technologique, dans toute une série de domaines, sauf évidemment les domaines qui sont liés au militaire, mais dans toute une série de domaines, l'industrie japonaise est extrêmement innovante. Bon, je dis, mais finalement, les Français, pour qui ils se prennent? Donc oui, je crois que ça pue, effectivement joué. Après, la question de savoir est-ce que c'est vraiment la part de l'État français dans l'actionnariat qui est importante, là je crois que pour le coup, les Japonais considèrent, bon voilà, nous on fait les choses à notre manière, les autres le font d'une autre manière. S'il y a des gens qui ne sont pas universalistes, c'est bien les Japonais, et qui, eux, conçoivent que ben, chaque pays a ses règles, a ses méthodes, et donc on fait avec, et on ne s'en mêle pas.
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'impression, en observant Carlos Ghosn, qu'il a un comportement vraiment de serviteur de l'État. Un mot sur le fait, par rapport à cette théorie du complot, quand même, Nissan aussi est inculpé par la justice japonaise en tant qu'entité morale.
Oui, tout à fait.
Ça
tout
décrédibiliserait cette
tout
théorie.
Tout à fait, parce que
Ils se seraient tirés eux-mêmes une balle dans le pied.
Non, il faut savoir que la justice japonaise inculpe, disons, poursuit non seulement les fauteurs, si vous voulez, de délits ou de crimes, mais aussi quand il s'agit de crimes économiques ou de crimes qui ont une origine économique, les gens qui étaient censés superviser l'institution qui a couvert le comportement du contrevenant. Et donc, évidemment, de ce point de vue-là, et il faut rappeler que, par exemple, pour la question de fraude fiscale, ou pour la question, l'équivalent au Japon, d'abus de biens sociaux, c'est Carlos Ghosn, en tant que PDG de Nissan, c'est pas son rôle dans Renault, c'est en tant que PDG de Nissan qu'il est mis en cause. Et donc, ça veut dire que pour la loi japonaise, la structure de gouvernance de Nissan a été défaillante. Donc, ça veut dire que derrière le procès Carlos Ghosn, il y aura certainement des procès des gens qui occupaient les fonctions dans les comités de surveillance. On leur demandera des comptes. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai tendance à ne pas croire à la théorie d'un complot d'entreprise, même si, et là, je suis aussi d'accord, hein, on ne peut pas complètement exclure qu'il y ait eu des individus qui se soient dit... le patron commence à faire des choses qui sentent le pâté, on va en profiter, parce que autrement, c'est nous qui risquons de passer à l'écarisseuse. Ça, c'est pas impossible, mais je ne crois pas du tout à un complot politique dont le centre serait effectivement dans l'entreprise Nissan.
Jean-Marc Daniel, une réaction à tout ce qu'il vient de dire.
Oui, encore une fois, il faut raisonner à partir des hommes, et je pense néanmoins qu'il y a au sein de Nissan des gens qui se disent que quelque part, c'était eux ou lui, et donc ils ont préféré faire en sorte que ce soit lui qui saute, avec le fait qu'il pensait que, compte tenu du côté quelquefois un peu léger de Carlos Ghosn, et on le voit bien hein, dans la façon dont il a traité son mariage ou dans la façon dont il a reçu certaines personnes à Versailles, qu'il... entre guillemets, il craquerait assez vite. C'est-à-dire qu'on attendait de lui qu'il signe des aveux. Ce qu'on fait beaucoup, d'ailleurs, de cadres américains dans des situations un peu analogues. On met en avant plusieurs exemples où on passe 15 jours, 3 semaines en prison au Japon. Encore une fois, c'est dur, manifestement. C'est pas très joyeux d'être là, mais on n'est pas non plus torturé. Personne ne le frappe. Personne ne le menace physiquement. Il est nourri tous les jours. Bon. Mais donc, il pensait qu'assez vite, pour obtenir sa liberté, il signerait des aveux, et à ce moment-là, déconsidéré, y compris sur le plan personnel, c'est-à-dire il aurait été déshonoré, et donc il ne pouvait plus continuer à diriger Renault-Nissan. Ça ne s'est pas passé comme ça, donc il ne pourra plus diriger Renault-Nissan, ça c'est clair, mais il va continuer à se battre, et donc les gens qui ont monté l'opération contre lui, à mon avis, vont en faire les frais, donc on va partir dans une logique du passé, faisons table rase. Et donc un des enjeux à cette occasion, c'est que veulent les actionnaires, l'État français, que veut Mitsubishi, qui est un des nouveaux rentrants dans l'Alliance et qui était entré sur des bases assez claires et qui a été un des premiers à se défaire de Carlos Ghosn en tant que président et dont les dirigeants sont en train de dire, écoutez, il y avait quand même pas mal d'ambiguïté dans la façon dont nous avions construit cette alliance. Renault-Nissan, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Nous, il y a des choses qu'on aimerait revoir. Donc, il faut effectivement remettre les choses à plat. Le choix de Jean-Dominique Sénard, puisqu'on a choisi Jean-Dominique Sénard, est assez habile dans la mesure où c'est quelqu'un qui est assez diplomate. Mais il vient de chez Michelin aussi. Et il était plus en conformité avec la tradition Michelin, c'est-à-dire une entreprise familiale française, qu'avec le côté un peu conquistador de Carlos Ghosn.
Et oui, mais alors justement, Jean-Marc Daniel, vous nous disiez tout à l'heure que Carlos Ghosn tâchait de s'intégrer à la société japonaise. Jacques Zapier avait plutôt l'air de dire qu'il n'avait pas tout à fait compris cette culture japonaise et ses spécificités.
Oui, je crois qu'il y a eu au départ chez lui une volonté de s'intégrer à la culture japonaise, ne serait-ce que pour se démarquer de l'équipe dirigeante de Renault, dans laquelle il avait débarqué un peu par hasard. Hein. Il n'était pas le candidat initial de Louis Schweitzer, il avait été plus ou moins imposé par la direction du Trésor sur la base d'un choix, à partir d'un travail d'un chasseur de tête. Donc, il était très impliqué dans le développement de Michelin, et il voyait bien que de toute façon, ça serait barré chez Michelin, donc il commençait à prospecter pour voir comment aller ailleurs. Mais sa vraie culture personnelle, c'était plutôt Michelin, et Michelin, ça avait été beaucoup le Brésil et les États-Unis. Donc il se retrouve dans cette ambiance asiatique, avec la conviction effectivement qu'il y a des gens qui l'attendent au tournant, mais donc il joue le jeu au départ du Japon, mais je pense que assez vite, il n'a pas compris totalement ce qu'était vraiment le Japon. C'est-à-dire qu'il le Japon, c'est un pays à la fois d'une grande culture, d'une grande richesse, qui on l'a dit, hein, c'est une grande puissance économique, c'est une grande puissance technologique. Et il a vécu le Japon comme une stratégie de communication, et je pense que il n'a pas vécu comme une adhésion à une culture. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que quand on met en avant sa cupidité, on lui avait proposé d'être à la tête donc de General Motors, où est Madame Marie Barra, avec une rémunération qui était largement supérieure. Et donc il n'arrête pas de répéter d'ailleurs qu'il a quand même, par attachement à la logique Renault-Nissan, et en particulier à Nissan, qui avait été son premier chantier dans l'Alliance, qui avait été son premier fait d'armes. C'est vraiment chez Nissan qu'il a montré ses capacités, qui lui ont permis ensuite de rebondir et de succéder à Louis Schweitzer. Et donc, il met en avant, j'ai fait des sacrifices pour vous, même si les sacrifices sont très relatifs. Mais il ne fait pas une forme de d'incompréhension. Il n'est pas loin d'accuser les gens qui sont à l'origine de sa chute d'ingratitude.
Jacques Zapier, on est en train de dire qu'au Japon, Alain Juppé ne serait pas nommé au Conseil constitutionnel.
Alors, c'est évident. C'est évident. Non pas.
Alors là, je rejoins Jacques Sabine.
non pas qu'il n'y ait pas de la corruption au Japon. On le sait très bien. Alors, elle a été extrêmement visible dans les années 60, enfin, fin des années 60, dans les années 70 et au début des années 80. Il y a des premiers ministres qui sont tombés, justement, sur des affaires de corruption. On ne compte plus les ministres qui ont dû démissionner, et parfois dans des conditions extrêmement humiliantes. Bon, il y a des chefs d'entreprise. Non, il y a une grande tradition de corruption, mais il faut savoir que la première chose que l'on attend de quelqu'un qui fait partie de l'élite, c'est qu'il respecte les règles. Il se comporte comme il se comporte, mais il doit d'abord et avant tout respecter les règles. Et ça, cette espèce de formalisme de la règle, peut-être que Carlos Ghosn ne l'a pas complètement
intégré. Il a cru que la puissance, le prestige, le pouvoir...
Vous parliez d'hubris.
Oui, oui, ouais. Lui permettait justement de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Et ça, au Japon, c'est une très 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 grave erreur. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment... et Jean-Marc a eu tout à fait raison d'insister là-dessus. Carlos Ghosn a commencé comme PDG de Nissan. Ce n'est qu'après qu'il est devenu le PDG de l'alliance Renault-Nissan. Je pense qu'il a fait des efforts réels pendant les 3-4 premières années. Et pendant les 3-4 premières années, par exemple, quelqu'un qui avait travaillé pour Renault-Nissan me disait il avait reconstitué alors une institution qui a existé dans la politique japonaise, ce qu'on appelait le Conseil des Anciens. C'était le Conseil des Genro, c'était les anciens premiers ministres qui se réunissaient pour donner des conseils aux premiers ministres en exercice. Il avait reconstitué cela au niveau de la direction de Nissan. C'est-à-dire qu'il avait réuni les anciens responsables de Nissan et dit voilà, je vais venir régulièrement vous demander votre avis, écouter vos conseils. Et ça, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait beaucoup plu aux Japonais. Il s'est dit, ah, quelqu'un qui respecte notre manière d'être, qui respecte d'une certaine manière nos coutumes, nos règles. Bon, et... en fait, il s'en est affranchi dans les années qui suivent. Là, il y a un véritable problème. Dernier point, c'est, et là encore, je ne suis pas loin de partager l'avis de Jean-Marc Daniel, la relation avec Mitsubishi. La relation avec Mitsubishi pose un véritable problème parce qu'il n'y a pas cette culture de l'alliance, il n'y a pas, je dirais, cette habitude de gens qui travaillent ensemble maintenant depuis de très très nombreuses années. Mais il y a aussi un problème, c'est que Mitsubishi n'a pas réellement d'avenir tout seul. Elle doit, d'une certaine manière, rentrer dans une alliance. Donc, la véritable question, c'est est-ce que les dirigeants de Mitsubishi sont en train de faire un choix stratégique et de dire Renault-Nissan n'est pas l'alliance qui nous convient, il faut qu'on aille avec une autre alliance. Mais j'insiste sur ce point, Mitsubishi n'a pas le pouvoir, n'a pas les moyens de continuer tout seul.
Jean-Marc Daniel, un mot de conclusion, Mitsubishi au cœur de la bagarre.
Oui, je crois que Mitsubishi sera effectivement un des enjeux de la mission de Jean-Dominique Sénard, et que finalement, je pense que les dirigeants de Mitsubishi, comme ceux de Nissan, se disent que la bonne alliance, c'est Nissan-Mitsubishi, et de laisser à Renault une sorte de partenariat, mais pas forcément une intégration très poussée, où Renault serait l'opérateur sur l'Europe, avec Dacia, avec tout ce bloc qui a été constitué en Europe, y compris en Russie. Mais que, on va, pour eux, il vaut mieux aller vers deux pôles plutôt que vers une alliance convergent vers une seule grande entité.
Merci Jean-Marc Daniel, merci d'être passé par notre studio. Merci bien sûr à notre maestro Jacques Sapir et à vous tous les auditeurs d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission bien sûr et toutes les précédentes en vidéo sur la page YouTube de Spoutnik France et sur notre site fr.spoutniknews.com. Notre cost killer à nous, c'est Jean-Baptiste Mendès à la production qui nous a aidé comme toujours à préparer cette émission, une émission qui ne roulerait pas droit non plus si elle n'était pas mise en onde et en couleur par mes camarades Pitchy et Pika. On vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos lacs. Salutations. This is not a method. This is a provocation. Let them do. No.